Bonjour, bienvenue à la deuxième saison de votre balado « Les petits caractères ». Je m'appelle Pierre Craig. J'ai animé l'émission La Facture durant 13 ans, alors j'en connais un petit bout sur la consommation. Des avocats d'Option Consommateur, eux, en connaissent un grand bout là-dessus. Alors ensemble, on vous présente deux fois par mois une discussion sur ce qui touche de près votre vie de tous les jours. Dans notre dernier balado, on a parlé de l'obsolescence, la programmée qui est causée par le fabricant et qui est difficile à prouver, mais aussi l'esthétique et la technologique qui viennent, elles, de nous-mêmes. Aujourd'hui, là, changement de registre complet, on va s'intéresser aux successions et aux testaments, des sujets, vous allez voir ça, qu'il ne faut surtout pas mettre de côté, je vous avoue que je me parle à moi-même en même temps que vous. Le 14 novembre, ma collègue Maria Fournier de la presse nous a raconté l'histoire d'une dame qui héritait d'un petit 5 000 $ et qui avait dû payer près de 2 600 $ au notaire qui a géré la succession. Alors, ça nous a allumé à toute la question des décès des successions et des héritiers. J'en parle avec Danny Provost. Il est à la fois planificateur financier, actuaire et fiscaliste chez SFL Expertise. Bonjour, Danny.
Bonjour, Pierre.
Danny, Marielle Fournier de la presse, là, je viens de le dire, a écrit cet article où est-ce qu'on se rend compte qu'une personne qui avait un petit héritage de 5 000 a demandé à un notaire de l'aider pour gérer la succession et tout ça. Ça finit par coûter entre 2 et 3 000 $ de frais de notaire. Bref, l'héritage a fondu comme neige au soleil. C'est des genres de frais qui peuvent éloigner les gens. Puis dans son cas, c'est arrivé un peu comme une surprise. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas similaire quand on va voir un notaire pour savoir... Je présume qu'il faut poser des questions, avoir un contrat, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bien, moi, ce que je suggère de faire, c'est de demander quel va être le plan de match, quelle va être l'intervention du notaire dans le dossier. De cette façon-là, il va pouvoir faire une estimation des honoraires qui vont être chargés en bout de ligne. Là. Et selon la complexité de la succession du dossier, bien, les honoraires vont être plus ou moins élevés, mais au moins, le notaire devrait avoir un ordre de grandeur des frais que ça va coûter. Là.
Mais ça, c'est des genres de frais qui peuvent éloigner les gens des notaires. Puis si tu veux, on va me prendre comme exemple. Je m'en allais en voyage il y a quelques années, pas de testament. J'avais déjà eu un testament, mais il était plus bon. OK. Donc, j'ai rédigé un testament holographe, sous la dictée d'une notaire, cependant. Ça a dû me coûter 200 $ ou à peu près. Le testament holographe est chez elle. Donc, j'ai sauvé des frais de notaire. Tout est beau, non?
Ben oui, tu as sauvé des frais de notaire, sauf que un jour, il y aura des frais qui devront être payés. C'est pas toi qui les payes de ton vivant, mais ça va être ta succession quand tu vas décéder, parce qu'un testament holographe doit être vérifié par la cour. Fait que là, au moment du décès, on a retrouvé le dernier testament, parce que c'est une chose aussi dont il faut être conscient, c'est que c'est le dernier testament qui a priorité sur tous les autres. Donc, une fois qu'on est à peu près certain d'avoir trouvé le dernier, là, c'est pas terminé. Il faut le faire vérifier par la cour. Alors, pour dire que oui, c'est bien l'écriture de la personne, parce pour pas que ce soit n'importe qui ait écrit ce document-là, et ces frais de vérification-là, ben c'est au-delà de 1 000 $. Fait que okay, oui, tu as sauvé des frais de notaire, mais là, c'est ta succession en bout de ligne qui va payer.
Donc, il va y avoir au moins 1 000 à payer, plus la démarche en cours. OK? Mais est-ce que c'est pas moins cher? Est-ce que c'est pas moins cher qu'aller voir un notaire pour se faire faire un vrai testament?
Ah non, des situations simples, là, les notaires chargent quelques centaines de dollars.
Ah oui?
Ça peut varier, oui. Puis souvent, les gens en profitent pour faire faire un mandat de protection en même temps. Là, c'est sûr que ça monte. Mais si on s'en tient juste au testament, quelque chose de simple, ça peut partir à 300-400 $ pour les situations simples jusqu'à, bon, évidemment, si on veut créer des fiducies, si on veut protéger des enfants handicapés, ces choses-là, ça va être plus onéreux. Mais un testament simple, là, c'est quelques centaines de dollars.
Donc, pour éviter des maux de tête à des gens affectés par un deuil, vaut mieux le faire maintenant. Vaut mieux avoir un... Pas juste pour cette raison-là, pas juste pour la question des frais, mais je pense que ton meilleur conseil, c'est va te faire faire un testament.
Ah oui, absolument. C'est pas juste pour les frais, c'est pour la clarté et c'est pour la certitude que nos volontés soient respectées. En fait, parce que si on écrit quelque chose, il est possible qu'on écrive des choses qui, malheureusement, ne soient pas légales. Parce qu'il faut pas que, il y a des règles là, civiles, là, il faut à respecter. Faut pas que le testament nuise à l'ordre public. Puis des fois, bien, ça peut être juste des petits détails, mais on ne le sait pas quand on n'est pas juriste. Fait qu'on écrit des choses qu'on pense correctes, et finalement, ça n'est pas applicable. Fait que si on veut être certain que nos volontés soient respectées, ben, un testament notarié, là, pour moi, c'est un no-brainer.
Okay. J'ai pas vu de chiffre, Danny, mais mon impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de testament. C'est mon impression, là, sans avoir vu les chiffres, là. Alors, si, admettons là, que je décède sans testament, qu'est-ce qui arrive à mes biens? Qu'est-ce qui arrive au patrimoine, puis avec les enfants et tout ça?
Ça s'en va tout au gouvernement. Fait que c'est important. Non, non. Je blague. C'est pas. Il n'y a rien qui va au gouvernement, là.
OK.
Il n'y a rien qui va au gouvernement. Ça s'en va. Il y a des règles qui sont dévolues. La dévolution des biens, là, qu'on appelle dans le Code civil, c'est déjà tout prévu. Fait que
OK.
si j'ai des enfants et que je n'ai plus de parents et que je ne suis pas marié, donc je suis seul avec des enfants, ben tout va aux enfants. Donc, c'est comme à peu près si je fais un testament en disant qu'ils vont hériter de façon égale tout le monde. Maintenant, si j'ai un conjoint marié, vraiment un époux, là, ou quelqu'un avec qui je me suis uni en union civile, qui est l'équivalent d'un mariage pour la loi québécoise, ben là, il y a les deux tiers de l'argent qui va aux enfants. Ben, je dis de l'argent. Deux tiers de la valeur de mon héritage qui va aux enfants et un tiers au conjoint.
OK,
Vous
mais si le
comprenez, selon
conjoint,
les
c'est un an.
situations, il y a des.
Si le
Oui.
conjoint, c'est un ancien conjoint, bon, les familles recomposées, on connaît ça, là. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. C'est un peu la mode de ce
Oui.
temps-ci. Alors, si j'ai un ancien conjoint, une ancienne conjointe avec laquelle je suis, ou conjoint, peu importe, là, avec laquelle je suis marié et je n'ai pas divorcé, j'habite maintenant avec une nouvelle conjointe, on va dire depuis 25 ans, je décède, pas de testament. Qu'est-ce qui arrive?
Ben, si tu es divorcé, le nouveau conjoint n'est pas reconnu. Bon, que tu sois divorcé ou pas, que tu aies réglé ton divorce qui date de plus. Ta séparation qui date de plusieurs années ou non, le nouveau conjoint n'est pas reconnu si tu n'es pas marié avec. Donc, la totalité de l'héritage va aller à tes enfants. Mais si tu n'as pas réglé ton divorce, ben là, il va y avoir les deux tiers qui vont aller à tes enfants et un tiers qui va aller à ton ex.
Ah oui, même si ça fait
Alors, c'est
25-30 ans
important
que
de
je peux,
régler.
même si ça fait 25-30 ans que je suis avec.
Même si ça fait 25-30 ans que tu n'es plus avec. Si le divorce n'est pas réglé,
OK.
malheureusement, c'est le conjoint qui a priorité.
Mais si là, OK,
Alors, c'est
parce que tu
important.
as dit quelque chose qui m'a frappé. Si je décède, bon, j'ai une conjointe en union libre depuis 15 ans. OK? Est-ce que j'ai bien compris que tu m'as dit qu'elle n'était pas reconnue?
Elle n'est pas reconnue. Autrement dit, c'est presque, en ne faisant pas de testament, c'est presque comme lui faire signer une renonciation à ton héritage. Ça se fait de façon tacite. Regarde, je ne fais pas de testament, donc je te déshérite parce que la loi ne te reconnaît pas.
Donc, avis aux 30% ou peut-être plus de couples québécois qui vivent comme moi en union libre, si vous ne mettez pas votre conjoint actuel, l'expression c'est ne couchez pas. C'est drôle cette expression-là. Si vous ne couchez pas votre conjoint ou votre conjointe actuelle sur votre testament, si vous ne faites pas de testament, ben, il risque de ne rien avoir du tout, là.
Exact. On dit bien risque parce qu'il y a certaines lois qui protègent le conjoint, notamment les régimes de retraite. Alors, si quelqu'un a un fonds de pension, qu'il soit retraité ou pas, le conjoint prioritaire, c'est le conjoint, en fait, le bénéficiaire prioritaire, je devrais dire, c'est le conjoint. À moins que quelqu'un ait pas réglé son divorce. Encore là, pour les lois,
Oui,
du
OK.
Québec, c'est l'ex époux qui a droit au fonds de pension. Mais ceci
OK.
dit, donc, et même chose aussi, si je désigne mon conjoint bénéficiaire d'une assurance vie, même si ce n'est pas dans mon testament, cette personne-là, mon conjoint, va recevoir l'assurance vie. Ça ne fait pas partie de la succession, une assurance vie.
on admet que j'ai un testament, il est rédigé par notaire, tout ça. On va parler impôt. Je décède. Est-ce qu'on a un impôt sur les successions au Canada, au Québec?
Bon, OK. On n'a plus d'impôt. On a déjà eu un impôt sur les successions. Ça n'existe plus. Là, ce qu'on a comme impôt, c'est un impôt sur les biens du défunt. L'impôt voit un défunt comme s'il avait tout vendu juste avant de mourir. Là. Ils sont les morts. Puis, OK, je te vends ça. Puis, okay, on a vendu le chalet. On a encaissé les REER. Puis, juste avant de mourir. Donc, okay. Qu'est-ce que ça a comme impact? Ça veut dire que s'il y a du gain en capital sur le chalet, une plus-value depuis qu'il a été acheté, si j'ai des REER, ben tout ça, ça va s'ajouter sur mon dernier rapport d'impôt, sur ma dernière déclaration de revenus. Ça va? Ça, c'est la règle générale. Ça fait que je ne peux pas passer à côté de l'impôt, sauf si mon conjoint hérite de biens. Si mon conjoint...
Okay. Mais attends, là, avant d'aller là,
avec mes biens.
Avant d'aller là, là ce que je comprends, là, parce que je veux vraiment bien comprendre, es-tu que je comprends bien. Là. Donc,
oui.
Je vais payer de l'impôt. Ben, je vais, oui. On va dire que je suis décédé, mais ma personne morale existe toujours d'une certaine façon. Et cette personne morale qui existe toujours, Pierre Craig existe toujours par rapport à l'État, va payer ses impôts normalement. Hein? Si j'ai un REER, puis mes enfants. Mettons que c'est à eux, veulent récupérer le REER, ils vont payer les impôts normaux que moi j'aurais payé sur mon REER si je l'avais encaissé. Si je vends une résidence secondaire, si ils vendent une résidence secondaire que j'aurais possédée, ils vont payer l'impôt sur le gain de capital comme si moi je l'avais vendu de mon vivant, c'est ça?
Tu n'es même pas obligé, tu peux enlever le « si » ils vendent le chalet. Si tu as une résidence secondaire, elle est présumé être vendu au décès.
Okay.
Donc, l'impôt est payé sur la résidence secondaire de toute façon.
OK, mais quand ils vont
le vendre ou pas dans la vraie vie.
Mais quand les enfants vont le vendre, on va dire 5 ans plus tard, le chalet, ils n'auront pas à repayer un deuxième impôt sur le gain de capital, non?
Ils vont payer un impôt sur le gain en capital qui a été gagné depuis le jour du décès.
Okay.
Donc, simplement la plus-value, l'appréciation depuis les 5 dernières années.
OK, donc c'est équitable.
Il n'y aura pas d'opposition.
OK, donc c'est assez équitable. Mais là, tu avais commencé à dire qu'il y a des règles particulières, puis tu disais, si tu lègues tout à ton conjoint, puis là, je ne t'ai pas laissé parler, qu'est-ce qui se passe si je lègue tout à ma conjointe?
Bien là, à ma conjointe, pas à la tienne, là. Si je lègue tout à ma conjointe, zéro impôt. C'est possible, si on veut, de ne pas payer un sou d'impôt. On appelle ça faire un roulement. Donc ça, c'est très avantageux. Le problème, c'est les familles recomposées dans un contexte comme ça. Parce que les familles recomposées, ça prend de la planification parce que disons une famille standard, une famille traditionnelle, là, comme on avait encore jusqu'à dans les années 70, là, la plupart des gens, il y avait papa, maman, puis les enfants. Bien, papa, maman, le testament, c'était assez simple. Là. Tout s'en va au conjoint survivant. Et puis, au deuxième décès, là, on va payer l'impôt et les enfants vont se ramasser avec ce qui reste. Mais là, dans les familles recomposées, c'est plus de la même game. Pourquoi? Parce que là, le nouveau conjoint, ça fait peut-être juste 5 ans que je suis avec, je veux l'avantager, mais si j'ai des centaines de milliers de dollars, je ne veux pas déshériter mes enfants. Fait que si c'est mon nouveau conjoint qui hérite de tout, lui, la semaine suivant le décès, là, après avoir essuyé quelques larmes, peut-être qu'il va partir sur le party, puis il va oublier mes enfants. Ça, j'ai aucune garantie de ça. Fait que ça demande de la planification. Dans un contexte comme ça, il faudrait prévoir avantager aussi les enfants et le conjoint. Donc, on va essayer peut-être d'envoyer des biens qui auraient de l'impôt payable au conjoint, puis de prendre comme de l'assurance-vie pour les enfants. Ça, il n'y a pas d'impôt payable sur de l'assurance-vie. Fait qu'on va être équitable sans trop payer d'impôt dans un contexte comme ça.
D'où l'importance d'aller consulter un notaire qui est un peu spécialisé en matière de succession pour se faire expliquer tout ce que tu dis et nous faire guider là, dans quoi faire, puis faire un testament. Là, je pense que je vais aller m'en faire un. Hein, on va finir par faire ça en t'écoutant Je comprends l'importance de ça. Écoute, plusieurs d'entre nous avons des régimes de retraite. Qu'est-ce qui se passe avec
Ben, un
un
régime de
régime de
retraite,
retraite?
il y a une particularité, je l'ai dit tantôt, c'est qu'il y a un bénéficiaire à un régime de retraite en cas de décès, et ce
Oui,
bénéficiaire-là,
oui, oui,
c'est
oui.
le conjoint.
OK.
Là, il y a une petite nuance, à savoir les régimes de retraite sous juridiction provinciale ou sous juridiction fédérale. Comme toi, comme ex-employé de Radio-Canada, tu as un régime sous juridiction fédérale. Alors, si tu décèdes, et que tu as un nouveau conjoint et que tu n'as pas réglé un divorce, exemple, donc en théorie, qui est-ce qui est? Ben, c'est le nouveau conjoint. Si ça fait 12 mois que tu es avec, c'est correct.
OK.
Mais au Québec, ce n'est pas ça. Au Québec, si tu n'as pas réglé ton divorce, c'est l'ex-conjoint qui se ramasse avec le fonds de pension, même si ça fait 15 ans que tu es avec un nouveau conjoint.
OK. Quand on en parlait aussi, Dani, avant, tu me disais, puis bon, on a commencé à en parler, là, mais les legs particuliers, ça c'est exempt d'impôt.
Ben, c'est-à-dire que,
Peux-tu nous expliquer, nous
oui,
réexpliquer,
ben, en
là?
fait, le legs comme tel ne sera pas exempt d'impôt. Il va y avoir de l'impôt qui va être payé dans le legs, sauf que cet impôt-là va être payé par qui? La règle générale dit que ce n'est pas le légataire, celui à qui on lègue, qui va payer l'impôt, ça va être la succession. Donc, prends un exemple, j'ai un gars et une fille, j'ai 100 000 $ dans un REER, j'ai 100 000 $ dans un CELI. Ben, et je lègue le REER à mon fils, puis je lègue le REER à ma fille, puis je lègue le CELI à mon fils. Bon. Là, ma fille, si je dis rien, je spécifie rien dans mon testament par rapport à l'impôt, ça va être ma succession qui va payer l'impôt. Alors, mais ma succession, ça va être quoi? Ça va être ce qui reste après avoir fait mon legs particulier. Fait que là, ma fille va recevoir 100 000 $ et ce qui va rester dans la succession, ça va être un CELI de 100 000, mais je devrais payer l'impôt sur le REER de 100 000, peut-être 50 000. Donc, il va rester 50 000 dans la succession.
Ou tu veux dire que le garçon, OK, dans le cas d'un gars, d'une fille, la fille hérite du 100 000 du REER, le gars hérite du 100 000 cash qui est dans le compte en
Oui.
banque, il y a de l'impôt à payer sur le REER. La fille peut partir avec le
Oui.
100 000 cash, intouché, puis c'est le garçon qui va être pogné pour payer l'impôt sur l'héritage de la fille.
Ça peut faire
Hey,
des
c'est quelque
petites
chose, ça.
frictions, effectivement. Ça fait des froids d'un party de Noël suivant.
Je comprends ce que tu m'expliques, mais je trouve que c'est d'une complication. Bon Dieu, il n'y a pas moyen de simplifier ces choses-là. Est-ce que le législateur a déjà pensé à simplifier ça? Ou si tu vas me dire, écoute, oui, c'est compliqué, mais pour avoir de l'équité, c'est ça que ça prend. Je ne sais pas, là. Mais moi, ça
Ben,
m'apparaît
écoute,
bien
ce qu'il y a de plus
compliqué.
simple, justement en faisant affaire avec un notaire, ça rend les choses plus simples parce qu'on n'est pas obligé d'appliquer des règles comme ça qui sont tordues un peu. Fait que quelqu'un qui structure bien ses affaires va dire, je lègue 100 000 $ à ma fille de REER à condition qu'elle assume le paiement des impôts. Fait que là, ça va être équitable. C'est elle qui va se ramasser, devra rembourser, en fait, qui va se ramasser simplement le net. Du REER, là. Fait que ça, c'est
OK.
simple. C'est plus simple. Mais oui, ça peut être très compliqué ici.
OK. On a nommé des noms de comment dire, des attributions de gens. On a parlé de légataire, on a parlé de bénéficiaire, on a parlé de succession puis d'héritier. On peut-tu rapidement, là, juste donner une petite définition rapide que tout le monde se retrouve. Donc,
Parfait.
regarde, là, je sais pas, moi, bénéficiaire, c'est quoi exactement?
Bon, un bénéficiaire, c'est quelqu'un qui est nommé dans un contrat, soit dans un régime de retraite ou soit dans une police d'assurance vie.
OK.
Mais
Mais
un
grosso
bénéficiaire, c'est
modo,
quelqu'un qui va recevoir l'argent,
ouais.
mais ça n'entre pas dans la succession. Autrement
OK.
dit, c'est béton. Le
OK.
fonds de pension, il est reçu par le conjoint survivant.
OK.
On n'en parle pas dans la succession. Même chose pour
Légataire,
l'assurance vie, on n'en parle même pas.
OK. Légataire, c'est ceux à qui, comme on le disait il y a quelques instants, légataire, c'est ceux à qui je vais faire un legs, un don particulier.
C'est ça. Je nomme une personne dans le testament, puis je dis, je veux que cette personne-là hérite de tel bien. Je veux
OK.
que le chalet aille à mon fils, numéro 2. C'est mieux de ne pas nommer les numéros, c'est mieux de nommer les prénoms, là. Mais donc, quand ils sont bien identifiés, quand sont bien identifiés dans le testament, on appelle ça des légataires.
OK.
Et si la succession est solvable, ben ces gens-là vont recevoir le bien sans impôt, sans que ce soit eux qui payent l'impôt sur le bien.
Puis là, il reste deux...
C'est des légataires, il y a un petit avantage.
OK, il reste deux termes, héritier et succession.
OK, ça c'est la même chose. Les héritiers, ce sont les gens qui vont hériter de la succession. La succession, c'est ce qui reste après qu'on ait fait tous les calculs là, de tous les biens qui restent, qui n'ont pas été légués à des personnes en particulier. Alors, tout le résidu, c'est ça qui constitue la succession en termes d'actifs, mais il y a aussi les dettes de la succession.
Bon, mais là, je comprends. OK, je comprends mieux. Ça veut dire
donc,
que...
Donc, dans les dettes de la succession, il y a le gouvernement, il y a l'impôt et il y a d'autres dettes standards, s'il reste un prêt hypothécaire, des choses comme ça.
Alors, Danny, je suis mort. Ça me fait plaisir de te parler quand même. Je suis mort. On va parler liquidation. On va parler liquidation. Le défunt a pu peut-être nommer un liquidateur. On entend dire ça. Je pense que les gens savent qu'on peut nommer un liquidateur de notre vivant. Demander à quelqu'un qu'on connaît, soit de la famille ou un ami, de faire ça pour nous, c'est un grand service. S'il n'y en a pas de nommer, qu'est-ce qui arrive?
Ben, on peut le nommer dans un testament aussi.
Oui, c'est ça.
Bon, si on n'en a pas de nommé, là, ce sont les héritiers qui devront voter pour en désigner un.
OK. Le rôle d'un liquidateur, ça, je pense que je le sais, c'est de gérer tout ça. C'est de gérer l'héritage, de gérer le patrimoine, le calcul, je ne sais pas quoi. Là, on va voir ça ensemble, mais c'est ça son rôle. Le premier geste qu'un liquidateur doit poser, qu'est-ce que c'est à ton avis?
Bien, une fois qu'on sait qu'on est nommé liquidateur, c'est de s'enregistrer. S'enregistrer au RDPRM. Là.
OK. Registre des droits personnels et réels mobiliers.
C'est pas pire, hein? Bravo.
Mais non, je l'avais écrit, là, c'est parce que de mémoire, j'étais incapable de me souvenir.
OK.
Même que j'avais écrit mobilier, mais c'est pas immobilier, c'est registre des droits personnels et réels mobiliers.
Exact.
Donc, comme liquidateur, je m'inscris là.
Oui, c'est ça. Pour que, ça c'est une espèce de chien de garde, si on veut, il va y avoir un suivi des différentes étapes de la succession jusqu'à la production d'un avis de clôture de compte de la succession. Là, c'est la dernière étape. Mais il y aura des suivis qui devront être faits auprès du RDPRM pendant la liquidation de la succession. Donc, la première étape, c'est de s'inscrire.
Deuxième geste, je pense qu'il faut chercher s'il y a un testament.
Oui, si le testament n'a pas déjà été trouvé, parce que là, en fait, on devrait essayer de trouver le testament même avant pour être certain que le liquidateur n'est pas nommé dans le testament.
Okay.
Donc, on devrait faire les efforts de trouver le testament même avant la nomination officielle du liquidateur, mais si jamais on ne l'a pas encore trouvé, c'est le temps de le faire. Là. Donc là, il faut fouiller dans tous les raccoins de la maison. Il faut faire une recherche testamentaire. Il y a deux registres. Il y a un paquet de registres qui existent auprès de la Chambre des notaires et il y a un registre au barreau du Québec. Fait qu'on envoie une recherche, on peut faire une recherche à ces deux registres-là pour savoir est-ce qu'il y a un testament qui a été enregistré dans ces registres-là. Oui ou non, puis si oui, quelle est la date du dernier enregistrement? Ça veut dire que si on trouve un testament dans la maison, exemple un testament holographe qui est bien caché dans un tiroir et qui est plus récent que le dernier enregistrement, ben il va avoir priorité sur le dernier testament qui a été enregistré. Mais encore faut-il qu'il soit vérifié par le tribunal. Et si il va y avoir priorité.
Et l'homologuer, bon.
Une fois que c'est fait, il y a des gens qui ont été identifiés dans le testament, comme possiblement comme des légataires, comme des héritiers. Mais là, il faut contacter tout ce monde-là pour leur dire qu'ils ont droit à quelque chose dans le testament.
OK. Puis ensuite, on fait l'inventaire dont tu parlais tout à l'heure. C'est quoi le patrimoine? Il faut faire l'inventaire de tout ça. Le publier, comme tu viens de le dire, pour que si jamais il y a des créanciers dont personne ne connaît l'identité, qu'ils se manifestent et viennent réclamer leur dû. Puis tu as parlé aussi, comme dernière étape, d'une clôture. Qu'est-ce que c'est, en quelques mots?
Et on arrive à une étape où, lorsque tout le monde s'est mis d'accord sur la valeur de la succession, bien là, on va liquider, proprement dit, la succession. On va faire des chèques aux différentes personnes provenant du compte de la succession.
Okay. Mais là, j'ai une question. Là, j'ai une question. Rendu à cette étape-là, parce qu'on entend dire que des gens refusent des successions ou acceptent des successions. Peux-tu, en quelques mots, là, m'expliquer c'est quoi, là? Pourquoi on a le droit de refuser? Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Oui, on a le droit de refuser, mais là, on a absolument besoin du notaire si on refuse, parce que ça prend un refus qui doit être notarié.
Okay. Mais pourquoi on refuserait
si on accepte,
une succession?
On n'a pas besoin.
Pourquoi on refuserait
pourquoi
une succession?
On refuserait parce que la succession de quelqu'un, c'est sa situation, son bilan financier, après le décès, mais il peut être négatif, ce bilan-là.
Okay.
Quelqu'un peut avoir plus de dettes que de biens. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Là, est-ce qu'on va pénaliser les enfants parce que celui qui est décédé gérait mal ses affaires ou était malchanceux? Non, les enfants qui font face à une succession qu'on appelle insolvable vont pouvoir simplement la refuser.
Dani, je pense qu'on peut s'entendre que c'est pas simple. En terminant, là, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider? Y a-t-il des sites web? Y a-t-il quelque chose qui peut nous donner un coup de main pour qu'on se comprenne? Mettons que je suis liquidateur de quelqu'un qui me l'a demandé, puis j'ai accepté d'y rendre cet immense service parce que c'est un immense service. Y a-t-il quelque chose qui peut m'aider?
Oui, il y a des ressources. Éducaloi, c'est un site d'un organisme à but non lucratif qui peut donner beaucoup d'informations sur la liquidation des successions. Des sites du gouvernement, le ministère de la Justice, vous avez. Donc, on a juste à googler là, liquidation, succession. Et à ces sites-là, on peut combiner, où on voit un paquet d'étapes, on peut combiner d'autres sites Internet où là, ils font référence au volet funérailles et tout ce qui entoure le décès, je dirais des choses pratico-pratiques avant de parler de succession proprement dite. Donc, on peut tout amalgamer ça. Malheureusement, au moment où on se parle, moi, j'en ai pas trouvé qui était complète de ces listes-là. C'est pour ça que j'en ai mis une dans.
Ça, c'est ton livre. As-tu réglé ça?
C'est mon livre qui vient de sortir. As-tu réglé ça?
Okay.
Et la seule section sérieuse du livre, c'est la section justement où je parle des liquidations de succession et du décès. Qu'est-ce qu'on fait après le décès? Dans les minutes qui suivent le décès jusqu'à l'avis de clôture où on a complètement liquidé la succession.
J'imagine que sur le site de la Chambre des notaires, ils donnent aussi des manières de nous, ils ont des manières de nous aider, de nous expliquer. Puis tu m'avais dit une chose quand on s'est parlé précédemment, qu'un directeur de funérailles pouvait, et on va terminer là-dessus, qu'un directeur de funérailles pouvait nous donner quand même un bon coup de main.
Oui, absolument. C'est une des personnes clés là, dans toutes les étapes dont on n'a pas parlé aujourd'hui, les étapes administratives, les comptes, les organismes gouvernementaux qu'il faut avertir, bien, tout ça, le directeur de funérailles peut donner un sérieux coup de main. Tu sais, qu'on parle de la carte d'assurance maladie, de permis de conduire, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites en collaboration avec le directeur de funérailles. Et il y a un formulaire qui existe depuis quelques années, une demande de transmission simplifiée de renseignements relatifs au décès, qui fait en sorte que un paquet d'organismes vont être avertis de façon automatique du décès. Au lieu de se
Donc,
taper un paquet d'étapes.
Là. OK.
Mais le directeur est une personne clé dans ça. Puis j'invite aussi les gens, s'ils ont des conseillers financiers qui sont particulièrement habiles en impôts, en fiscalité, parce que là, il y aura des déclarations de revenus à faire et tout ça, bien, aller chercher de l'aide, aller chercher de l'aide. Donc, le directeur de funérailles, notaire, conseiller financier, ce sont des gens qui peuvent aider les gens en cas de décès parce qu'on peut facilement perdre son latin. Là.
Dès que ben, écoute, je l'ai
ça
perdu.
Devient complexe un petit peu.
J'ai perdu mon latin que j'avais appris d'ailleurs au collège classique en partie, mais tu m'as expliqué, là j'en connais déjà beaucoup plus, mais c'est sûr que tu m'as convaincu d'une chose, c'est d'aller me faire faire un testament chez un notaire, malgré le fait que j'ai déjà un testament holographe qui est dans la voûte d'un notaire. Mais je vais t'écouter puis je vais aller voir un notaire. Danny, merci beaucoup de tes explications. Merci beaucoup.
Pax vobiscum.
Pour aller plus loin, je vous suggère de lire l'article de ma collègue Marie-Ève Fournier qui s'intitule « La grosse facture des petites successions », c'est dans la presse du 14 novembre. Et pour en savoir encore plus, bien, consultez le site web de la Chambre des notaires. Il y a aussi le site proposé par Éducalois. Je l'ai regardé ce matin, ça m'a l'air assez bien fait et clair. Puis enfin, il y a le guide « Que faire lors d'un décès ». C'est un guide très complet. C'est offert gratuitement par le gouvernement du Québec. Ça fait 68 pages, mais je pense que ça vaut la peine. Et puis, il y a aussi des liquidateurs professionnels qui vont tout faire pour vous en vous demandant un pourcentage de la succession qui peut tourner autour de 2 à 5 %, mais je présume évidemment que pour des toutes petites successions, ils ne seraient pas vraiment intéressés. Mais l'important avec un professionnel, qu'il soit liquidateur ou notaire, c'est d'avoir avec lui un contrat très clair. À la prochaine.